mesdames, messieurs, chers collègues, d'avoir accepté ce jury. Merci tout particulièrement à Benoît également au dossier, d'avoir rendu possible cette soutenance. Printemps 2017, trois semaines durant, un quadragénaire semi-comateux transpire à grosses gouttes sous une couette de bonne épaisseur, assis dans une espèce de cabine téléphonique en plexiglas. C'est Abraham Poincheval qui couvre des œufs de poule au palais de Tokyo. Ça, c'est l'art contemporain. Aucun doute là-dessus. Version plus circonspecte, si vous voulez. Il n'y a qu'un artiste contemporain pour couver des œufs. Je précise pour les sceptiques ou les consternés qu'il y a eu par le passé assez de louves ou de chèvres pas toujours mythologiques qui ont dépanné les humains en matière d'allaitement des nouveau-nés pour que l'idée qu'un homme rende l'appareil à la jante animale ne soit pas considérée comme tout à fait inutile. Mais passons. S'il ne fait guère de doute pour personne qu'une œuvre comme celle de Poincheval relève de l'art contemporain, c'est parce qu'elle présente la plupart des aspects caractéristiques de cet art, qui n'est pas simplement une nouvelle esthétique qui viendrait après le constructivisme, l'expressionnisme, etc., qui n'est pas une nouvelle période artistique, mais qui est ce que les spécialistes d'esthétique et les sociologues de l'art, comme Nathalie Niche, reconnaissent comme un paradigme constitué, et ce paradigme est aujourd'hui nettement distinct de celui de l'art moderne. L'art contemporain, c'est un art qui ne s'attache plus au travail d'un médium spécifique, qui ne s'attache plus au miracle du geste créateur, qui ne s'offre plus au jugement de goût, au discours sublimant et à la contemplation esthétique. C'est un art qui n'est pas préposé à la symbolisation de la vérité supérieure du monde, un art qui refuse le portant et le hors-lieu du fameux white cube moderne, qui naturalise et qui repragmatise les conditions d'expérience esthétique. Bref, c'est un art qui contrarie toute idée d'essence de l'art, un art sans qualité, comme disait Jean-Pierre Cometti, un art dédéfini, comme le disait le critique américain Harold Rosenberg dès les années 60. Alors, si tous ces aspects autorisent à considérer l'art contemporain comme un paradigme distinct de celui de l'art moderne, et si l'opposition art moderne, art contemporain est aujourd'hui au moins intuitivement dans tous les esprits des gens qui s'intéressent à l'art, l'opposition du contemporain et du moderne en littérature est quand même beaucoup moins nette, même quand on s'intéresse de près à la littérature. Le signe le plus évident de cette différence, c'est l'usage des adjectifs eux-mêmes. En art, moderne et contemporain s'opposent, et même se font la guerre. Depuis 1948, quand le musée de Boston prend ses distances avec le musée d'art moderne de New York et devient le premier institut d'art contemporain, premier du monde. Inversement, en critique littéraire, les adjectifs modernes et contemporains entretiennent des relations ambivalentes, à la fois problématiques et peu problématisées, entre synonymie complète, tuilage, inclusion réciproque et complémentarité occasionnelle. Je dirais que les deux termes, de manière toujours commode, mais rarement douloureuse, se rendent service en échangeant les bons procédés. L'idée de modernité semble intouchable pour les critiques littéraires, tandis que contemporain, l'adjectif reste technique, c'est-à-dire synonyme d'actuel, mais hésite entre l'élasticité séculaire, la littérature contemporaine comme la littérature du XXe siècle, ou, au contraire, le resserrement superlatif, la tentation de l'extrême, la littérature de l'extrême contemporain, c'est-à-dire celle de la semaine dernière, ce qui est absolument aporétique et différent. Alors certes, depuis une vingtaine d'années, en France, on a tendance à désigner plus spécifiquement comme contemporaine la littérature d'après le fameux tournant des années 80, reconnu comme le début d'une nouvelle période. Mais, problème, cette littérature française baptisée contemporain au sens chronologique est alors décrite comme la continuation réformée, on pourrait même dire modernisée, d'une modernité scripturale venue à récipiscence avec des soufflements proclamés dès l'avant-garde du textualisme des années 70, en gros quand Philippe Sanders arrête tel quel en 1982. Alors dans ces conditions, que serait une littérature contemporaine au sens que prend l'adjectif en a, un sens qui est donc plus notionnel que temporel, une littérature démarquée de la littérature moderne comme l'art contemporain se démarque de la peinture encadrée et de la sculpture sur sol, à savoir une littérature à son tour déspécifiée, repragmatisée, dégagée des absolus d'autonomie et d'insularité qui représentent le livre, le texte, l'écriture, la lecture silencieuse, etc. C'est cette question qui a inspiré l'essai que je présente dans ce dossier, le contemporain comme hypothèse. Cette littérature contemporaine, elle existe. Elle est même aussi ancienne que l'art du même nom. Elle se préfigure avec Dada, elle se relance en 1945 avec le dernier Artaud, et dans son sillage, à la fin des années 50, avec la poésie-action de Bernard Herzig, la poésie concrète, la poésie ouverte, et elle se développe aujourd'hui de plusieurs manières. Elle est pluridisciplinaire, transmédiale, elle est interactive, elle est potentiellement collective, c'est une littérature exposée, plasticienne, comme l'appelle Jean-Jacques Scholar, une littérature délivrée du livre, comme le dit Magali Mastergaël, une poésie post-poétique, comme dit Jean-Marie Glaise, une littérature factographique, comme l'appelle Marie-Jeanne Zenetti, ou encore une littérature bouhaha, selon la formule de Lionel Ruffin. Alors mon propos dans cet essai n'était pas d'envisager spécifiquement cette nébuleuse, mais de réfléchir à la différence de situation entre le domaine de l'art et le domaine littéraire sur la question du moderne et du contemporain, à savoir le fait que, d'un côté, le contemporain domine aujourd'hui en art, il est massif, alors que les pratiques littéraires, que je viens de qualifier de contemporaines, elles, sont historiquement à la marge de la marge, donc beaucoup confidentielles, et les plus anciennes d'entre elles sont même restées relativement ignorées de la critique, jusqu'à des travaux récents, ceux de Gaël Tebar, par exemple, sur le rayonnement littéraire, ceux de Christina de Simone, sur la poésie action des années 50-60. Donc il s'agissait d'expliquer ce phénomène de décalage de catégorisation et ce phénomène de décalage de visibilité des catégories elles-mêmes, du moderne et du contemporain, entre art et littérature. Alors ce projet d'une approche comparative des deux domaines, ou plus exactement ce projet de considérer la littérature depuis l'art, il résulte pour moi de plusieurs facteurs et circonstances assez disparates, mais finalement convergentes. Je les rappelle en deux mots. D'abord, ce projet s'inscrit dans une évolution générale de l'ensemble de mes recherches sur plusieurs années, une évolution marquée par un recul progressif par rapport à une critique immanentiste. Sur Claude Simon, par exemple, je suis passé d'une approche stylisticienne, fondée sur la lecture de prêtres, à une approche plus contextualisante, culturalisante, avec le colloque organisé avec Paul Dirks ici même, en 2007, jusqu'à un dernier article, là, où j'envisageais la relation de Simon à l'art vidéo. Et là, j'étais très en dehors du texte, puisque je travaillais justement sur un non-objet textuel, à savoir le fait que Simon ne s'intéressait pas, mais pas du tout à l'art vidéo. Mon idée étant de montrer qu'il aurait pu tout à fait s'y intéresser, et même qu'il aurait dû s'y intéresser. Enfin, c'est une autre histoire, je passe. Donc, j'aspirais à une position d'extériorité pour parler de la littérature et pour sortir d'une espèce de révérence herméneutique qu'on m'avait apprise pendant mes années d'études. Je l'ai trouvé, cette extériorité, comme beaucoup d'autres collègues, dans l'approche sociologique de la littérature, surtout quand il s'agissait d'étudier la question du social et du politique dans la littérature actuelle. Un sujet qui nous a beaucoup préoccupés. Et là, je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas s'intéresser à la société dans la littérature, c'est-à-dire dans la littérature disait la société, le travail, le politique, etc., autrement qu'en se demandant ce qu'il en était de la littérature dans la société. Et je me suis dit qu'il fallait aller plus loin, à savoir qu'il fallait retourner l'interrogation sur l'interrogateur lui-même en se demandant ce que signifie l'intérêt que porte aujourd'hui l'université, la critique universitaire, aux littératures du travail et aux littératures susceptibles d'avoir un sens politique. Et cet intérêt, à mon avis, au moins en partie, il est le signe d'une mauvaise conscience de notre part face à notre propre dépolitisation, c'est-à-dire face au sentiment d'une certaine capitulation inédite dans les sciences humaines, qui sont plutôt marquées par une tradition d'indocilité, une capitulation récente, donc, face au pouvoir politique. Et là, vous fournissez un autre poste d'observation du littéraire. Il y avait d'abord des circonstances institutionnelles. Au début des années 2010, Marie-Madeleine Grandbout et Alain Schaffner célébraient les noces de l'équipe de recherche Écriture de l'Université, à laquelle j'étais rattaché, et d'une équipe du CNRS, ARIAS, qui regroupait des spécialistes des relations entre les arts. De ces noces naissait Talim, nouvelle entité, vouée à la fois à l'étude de la littérature et des arts. Cette évolution institutionnelle facilitait les élargissements de mes propres recherches. Il se trouve par ailleurs que j'avais moi-même une petite expérience du champ artistique par mon travail photographique. Il se trouve aussi que j'enseigne à Paris 3 l'histoire de la photographie en marge de mon cours de littérature et que j'ai eu aussi parmi mes étudiants master plusieurs étudiants en double cursus, c'est-à-dire inscrits à la fois en école d'art et en lettres modernes, et dont les travaux ont stimulé ma curiosité. Voilà mon contexte professionnel. J'avais parallèlement, et depuis longtemps, à propos de la littérature actuelle, des sentiments un peu confus, mais tenaces, que j'avais à cœur d'élucider, donc, d'abord, une certaine perplexité devant ce qui, aujourd'hui encore, constitue un marqueur fort de la légitimité littéraire dans l'aspect même de certains livres, à savoir cette signalétique de couverture de plusieurs maisons d'édition indiscutables, marquées par le modèle funéraire. Centrage hiératique des indications, caractère de titrage qui imite l'écriture du lapicide, et puis ce filet rectangulaire là, qui sanctuarise les contours du livre, donc ces allures de pierre tombale, de stèle définitive, qui sont caractéristiques de l'objet livre, et censés représenter aujourd'hui encore la littérature la plus légitime. Et à mon avis, c'est un des marqueurs symboliques les plus saillants et les moins remarqués, autrement dit devenu l'un des plus naturels, de la prévalence dans l'esprit des écrivains, éditeurs, critiques et lecteurs actuels d'un imaginaire littéraire de type charismatique, de cette religion de la littérature qui court de Hegel à Heidegger et qui a été relayée par Mallarmé, par Blanchot, etc. C'est ce fameux sacre de l'écrivain que diagnostiquait Paul Benichou en 1973, qui est emblématique donc de la modernité. J'étais aussi un peu gêné, sans que je m'explique complètement pourquoi, avec cette nouvelle périodisation de la littérature française dont j'ai parlé tout à l'heure, qui faisait consensus dans la profession et qui voyait donc le tournant des années 80 comme le moment inaugural d'une nouvelle période marquée par un retour du réel. Alors, ce retour du réel, il avait bien eu lieu en art, comme l'avait pointé Christian Jacquin à Al Foster, dans son ouvrage bien connu, mais en littérature, il me semblait beaucoup plus problématique. Disons. J'en donnerai qu'un exemple ici, mais qui est significatif, c'est celui du passage à l'euro. J'ai guetté, à partir de 2001, les premières occurrences de la nouvelle monnaie dans notre littérature. Et je peux aujourd'hui vous informer que le passage à l'euro de la littérature française a eu lieu en 2003, à la page 62 du 10e roman de Jean Michelot, au piano, par la voix des prostituées des couloirs de ceinture qui annoncent leur tarif aux clients. Ça donne, c'est 15 euros la pipe et 30 euros la moule. Première attestation donc de la nouvelle monnaie dans le roman français dit de qualité. Echelon se prenait évidemment ses distances énonciatives, il mettait la phrase des prostituées entre guillemets et il faisait remarquer que leur formule n'était rien d'autre, je cite, qu'un alexandrin parfait classiquement balancé avec ses journalistiques. Ce qui est vrai, c'est lui, je la répète, mais c'est pas grave. Cette précision me paraissait emblématique d'un phénomène plus large, à savoir que l'accueil des réalités du présent, chez Echnoz, mais aussi chez beaucoup d'autres, Toussaint, Auster, par exemple, n'était finalement qu'un prétexte, à une espèce de rétraction lettrée à la prise de distance esthète de l'écrivain qui, tout contemporain qu'il soit, doit se dédouaner de sa compromission avec un présent trop actuel en protestant de sa distinction culturelle. La littérature était peut-être redevenue transitive, mais elle n'avait pas abandonné le souci de son incommensurabilité avec le monde ordinaire. Il semblait qu'il y avait là un quelque chose de spécifiquement littéraire et quelque chose de spécifiquement français. Je voulais réfléchir aux raisons profondes de cette spécificité. Et puis d'autre part, les parallèles que proposait la critique entre les domaines littéraires et artistiques me paraissaient faussés. En particulier, cette hypothèse d'un synchronisme global de l'histoire de l'art et de l'histoire de la littérature sur le dernier demi-siècle, et ce récit, sous la plume de Dominique Viard, d'une bifurcation simultanée dans les deux domaines, du moderne vers le contemporain, au début des années 1980. Pour moi, ce récit était biaisé, parce que la littérature de la décennie 80, en tout cas celle désignée comme contemporaine par l'université, correspondait davantage au phénomène de restauration picturale qui marquait l'art européen au moment, néo-expressionnisme allemand, trans-avant-garde italienne, figuration libre en France, mais qui ont été, ces phénomènes de restauration, en réalité, les plus réfractaires au paradigme de l'art contemporain. Et puis enfin, j'étais sceptique sur cette question de la relation entre art et littérature au XXe siècle, à propos des écrits sur l'art des écrivains eux-mêmes. Il y a en France, depuis Diderot, une tradition critique d'art, principalement assurée par les écrivains, on a de raison, qui fait du monde des lettres et de celui de l'art moderne des alliés substantiels, disait René Char, des alliés portés à la célébration réciproque de leurs exceptionnalités respectives, avec, de la part des écrivains, une espèce de vibration d'enchantement quand ils se rendent dans l'atelier du peintre, vibration d'enchantement qu'on voit tendanciellement d'obscurantisme. Et il se trouve que je suis tombé récemment sur certains propos plutôt sévères de critiques d'art américains à propos de cette critique d'art littéraire française. Les propos, par exemple, de Rosalind Krauss, en 1996, qui jugeait cette critique d'art française le ballon des forains. Je vous cite parce que c'est assez drôle et stimulant. Pour Krauss, ce ne sont là que, je cite, des généralités entoulées du grand métaphysique, de l'adjectif et de la métaphore à satiété, des flonflons rhétoriques, du vent. Enfin, bien entendu, le devoir d'objectivité scientifique inhérent à la profession de chercheur m'interdisait de reprendre ce genre de propos à mon compte, même si la tentation était forte, mais ce même devoir m'imposait en France de chercher à comprendre ce qui pouvait motiver de la part des Américains cette sévérité à l'égard de nos écrivains critiques, visiblement. Les repères, les habitudes étaient différentes, et c'est cette différence qui m'intéressait. Alors je reviens à Lissel lui-même, après avoir essayé de retracer un peu sa genèse, je reviens à Lissel lui-même pour vous indiquer rapidement, je vais terminer là-dessus, quelques éléments de réponse que j'ai apportés, que j'ai essayé d'apporter à ma question de départ. Alors il se trouve, ça c'est un rappel, je n'ai rien inventé, que c'est aux États-Unis que les fondamentaux du modernisme esthétique ont été, c'est-à-dire le modernisme que défendait en critique Clement Greenberg, c'est aux États-Unis que ces fondamentaux ont été contestés à la fin des années 50 par ce qu'on appelait les néo-avant-garde, c'est-à-dire Fluxus, l'art minimal, l'art conceptuel, le pop-art dans une moindre mesure. J'ai essayé d'expliquer pourquoi ces fondamentaux du modernisme ont été beaucoup plus résistants en France. Alors, en littérature, au même moment, dans les années 50, en France, il y a eu la poésie-action d'un Bernard Lessig, la poésie ouverte, il y a eu l'association Domaine Poétique, par exemple, il y a eu les revues de Julien Blaine, de Jean-François Bory, il y a eu toutes les initiatives d'un Jean-Jacques Lebel, depuis le début des années 60, les années 80, enfin, du Festival Polyphonix. Mais tous ces courants ont représenté, ils ont représenté une contestation assurément radicale de la modernité, puisque c'est vraiment constitué à leur manière une réelle dédéfinition du littéraire, comme ce qui avait été fait en art à un moment, puisqu'ils contestaient l'hégémonie des prix, ils prenaient une littérature multisupport, une littérature live, et puis les artistes fluxus américains sont aidés de la partie, ils sont venus à Paris au moment des initiatives, des rencontres du domaine poétique. Mais tous ces courants sont restés, disons, des effervescences clandestines dans le monde des lettres, qui étaient dominées à l'époque par des avant-gardes, néo-romanesques, hippiennes, textualistes, attachées, elles, plus que jamais, à la spécificité et à la pureté du médium textuel. attaché à l'absolu littéraire et à cette espèce de suprématisme littéraire même qui remonte à Hegel. Ainsi s'explique que la production littéraire, dans sa plus grande partie, soit restée durablement moderne et que le travail sur la langue, l'écart de parler ordinaire, les promesses du style, la forme livre, le cadre éditorial traditionnel et la lecture désocialisée semblaient indépassables. Et puis ensuite, j'ai essayé de montrer qu'en accueillant à partir des années 90 la production littéraire en cours comme un nouvel objet d'étude, l'université, au moins dans un premier temps, a à son tour plutôt consolidé l'imaginaire moderne, modernisant, qu'elle a cherché à conceptualiser le contemporain. Plusieurs raisons à cela, une nécessité épistémologique, la vocation historiquement patrimoniale, canonisante du savoir académique, la prudence tactique aussi de la part des collègues qui étaient pionniers dans ce domaine il y a 20-30 ans, ou encore le jeu peut-être moins avoué des intransigences et des prédilections de chacun. Toujours est-il que l'appréhension du présent, présent littéraire, s'est d'abord faite avec les outils du passé, ceux d'une tradition critique allant du contre-Saint-Beuve au formalisme post-structuralisme, le tout à la recherche des classiques de demain. Avec cette conséquence, qu'on observe en particulier dans les histoires récentes de la littérature récente, hein, celle de Dominique Fiat et de Mauversier, celle de Denis Lamouret, à savoir une approche du fait littéraire qui reste essentialiste, le maintien d'un certain verrou normatif, la rémanence jusqu'à une date récente, d'une certaine orthodoxie moderniste dans les études littéraires qui ont tendance à minorer, voire à reléguer, les pratiques impures, les productions hors gabarit et les propositions qui démentaient les idéaux bien en place. La critique savante a ainsi eu du mal à admettre que la littérature puisse délaisser ses sanctuaires et se dédéfinir comme l'avait fait l'art 30 ans plus tôt. Et enfin, dernière petite remarque, si on considère donc ce contemporain artistique vient de Fluxus, du minimalisme, de l'art conceptuel, il me restait à m'interroger sur ce paradoxe, cette bizarrerie quand même, à savoir le fait que ces nouvelles avant-gardes américaines, dans leur contestation du modernisme, des fondamentaux de Greenberg, hein, en l'occurrence, se sont précisément réclamées de l'esprit des avant-gardes littéraires françaises de l'époque, le nouveau roman, Descartes, plus tard Perret, qui, elles, étaient en France les plus loyales sentinelles du modernisme. Il y avait là une bizarrerie que je cherchais. Et puis, il fallait aussi s'interroger sur les transferts de catégories esthétiques directement liées à ces néo-avant-gardes, donc les catégories de minimalisme, de littéralité, de conceptualisme, quand elles étaient transférées du lexique artistique vers le lexique de la critique. J'ai essayé de montrer que ces transferts ne s'étaient jamais opérés qu'à la faveur de distorsions, d'approximations,